Le chroniqueur financier Pat Raymond est en studio, très content de le voir. C'est le gars du podcast Financièrement parlant. C'est un ex-gestionnaire de patrimoine, c'est un ex-militaire, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Salut mon chum.
Allô, comment
un
ça va?
Un étudiant en plus, hein, il arrive d'un examen à son âge, à la retraite.
Mais ça, là, c'est la vraie liberté.
Fin de session.
50 ans, quand tu peux te permettre de retourner à l'université, je me suis toujours dit que j'allais le faire.
Puis
ça allait être en philosophie. Je te l'ai déjà dit, puis t'avais été surpris. Mais j'ai ça dans ma tête depuis des années,
Pourquoi pas?
C'est juste pour se tenir en forme, mentalement. C'est important de le faire.
Oui, puis ça amène un stress, parce que je n'avais un stress ce matin, c'est l'examen final, fin de session. Tantôt, Pascal, non, ça a-tu bien été? Je ne sais pas. Oui, puis non. C'est quand même, c'est en économie, c'est complexe, les graphiques.
Mais ça me fait rire que tu te mettes cette pression-là, parce que t'as pas accédé à une notation. T'es en compétition avec personne.
Avec lui-même.
T'es juste dans ton apprentissage personnel. Même si toi, t'as pas une cote X à l'université, ça servira pas.
Ça servait à rien. C'est ça que mon gars, il dit. Il dit, papa, pourquoi tu vas à l'école? T'as pas besoin d'aller travailler.
Ah non, ça, je comprends pas.
Mais tu sais, moi, j'aime ça apprendre. Puis oui, c'est un défi personnel, mais je pense que je partage un peu ce que Yannick... quoi que la philosophie m'intéresse, mais tu sais, pourquoi pas aller dans quelque chose qui n'est pas payant alors que tu es à la retraite? T'sais, la philosophie, hein, non?
Je voyais ma grand-mère dans le temps, 70 peut-être, là, étudier l'anglais.
Oui.
Puis écouter des affaires à télé qu'on allait la voir, mettons, dans les débuts d'année 2000. Puis je trouvais ça fascinant. Elle n'allait pas retourner sur le marché du travail à devoir parler anglais ou autre, mais cognitivement...
C'est
ça
pour
faisait
la tenir
allumée. Oui, puis elle aimait ça.
C'est de l'entraînement. Hein. C'est...
Le muscle, c'est le cerveau, c'est un muscle.
Tout à fait.
Puis il faut que tu le travailles constamment. Comme, pourquoi les gens ils font des mots croisés? C'est justement pour faire de l'exercice.
Ah, ça fait suer quand tu bloques. Là.
Ça fait suer. T'sais, moi, j'ai une madame à la maison qui tripe ses casse-têtes. Pendant des heures et des
avec
heures.
Avec des petits morceaux, là.
Elle peut fixer le casse-tête, les petits morceaux, puis là, il y en a 1000. Puis là, les chats qui sont au travers, puis là, les chats, tu sais comment, c'est gossant. Hein?
Ouais.
Là, tu mets quelque chose sur le bord d'une table, le chat, il regarde avec sa patte, il te regarde des yeux, il regarde sa patte. Puis il s'accent à terre, puis il te regarde. Ben, il fait ça avec ses casse-têtes constamment. Mais elle se garde mentalement active en faisant du casse-tête. C'est une fille qui travaille avec sa tête aussi. C'est une infirmière clinicienne.
Mais,
mais les casse-têtes lui permettent de se relaxer tout en continuant de travailler.
C'est une forme de méditation, je crois.
Aussi.
C'est une façon d'arrêter son cerveau ou de le concentrer plutôt sur une chose. Puis souvent, c'est ce qu'on fait pas. On pense tellement à plusieurs choses en même temps. Dans mon cas, moi, ça m'arrête d'étudier. Mais l'examen, je sais pas pourquoi, je pense que c'est psychologique. Ça me ramène quand j'étais flow, puis là, tu avais un examen. Puis, tu sais, celle-là d'aujourd'hui était, comment on dit ça, donc pas synchronisée, mais en fait, c'était un examen planifié. C'est pas moi qui décidais que je la fais ce matin.
OK.
C'était la date pour le cours que je suis présentement en économie. Mais tu sais, Yann et Pascal, c'est parce que je veux tellement me documenter pour venir alimenter le show ici.
Tu comprends-tu? Fais ça pour nous. À tes propres frais.
Ça augmente ma crédibilité. Le jour que je serai rendu au doctorat, là, on augmentera le cachet. Mais non, c'est blague à part.
Un docteur en économie.
Blague à part, mais comme Francis, l'ami Francis Gosselin, entre autres. Mais tu peux être docteur aussi en philosophie. Là, tu vas faire ton PhD, puis tu te fais avec un tutorat. Mais tu sais, c'est
intéressant.
J'ai hâte
de le voir
habillé en
poche de jute avec les cheveux longs.
Honnêtement, je pense pas me rendre
jusqu'au
doctorat. Là.
Ben, pourquoi pas.
Juste l'idée de faire quelque chose qui t'a toujours fait triper.
Ben oui.
Puis, bref. Hey, chronique économique, aujourd'hui, on parle du gars de Berkshire Hathaway. Son nom, c'est Warren Buffett, un homme de 85 ans. Son surnom, c'est l'oracle d'Omaha. Il a décidé finalement, à 94 ans, de prendre sa retraite. Il vaut plus de 129 milliards de dollars.
Oui.
Il était temps qu'il prenne sa retraite.
Ça, c'est sa valeur, mais il y a quand même beaucoup de cash. Là. Il y a plus que ça en cash dans Berkshire, là. Prêt à déployer. Puis, on parlait d'activité, justement, du cerveau. Là. L'activité du cerveau, 94 ans, puis encore très actif, puis très... c'est pas le gars le plus flamboyant là, en meeting. Là. Je le regardais un peu en fin de semaine avec son coke. Puis, mais je sais pas, quand il parle, tu sais... L'oracle, comme on dit. Là,
mais il est très fonctionnel au niveau finance, il est très fonctionnel. Mais pour tous ceux qui ont lu les livres sur Warren Buffett, tu te rends compte que ce gars-là, tout seul, pas accompagné, il meurt.
Il est perdu. Là. Il y a juste ça. Il y a juste ça qu'il connaît.
Il est pas, c'est sa femme. C'est sa première femme qui a tout réglé au quart de tour la vie de Warren Buffett.
À un moment donné, il en avait deux.
puis je vais te raconter l'histoire. C'est que à un moment donné, ils ont décidé de se séparer où elle s'est dit hey, c'est pas vrai que je vais rester avec un boulet jusqu'à la fin de mes jours. Fait qu'elle a dit garde, Warren, on se sépare, mais je vais trouver ta femme. Puis à tous les jours, ils allaient manger tout le temps au même restaurant.
Oui.
Puis ils ont parlé de leur projet à leur serveuse parce que c'était tout à la même serveuse. Puis la serveuse a accepté de devenir la conjointe de Warren Buffett.
C'est et cette beaucoup femme-là, d'affection, quand mais même. C'est aussi très étrange.
Et cette femme-là,
très beau.
Et cette femme-là est toujours la serveuse de restaurant est toujours avec Warren Buffett à ce jour.
Elle a fait son plus gros pourboire à vie ce jour-là. Là.
Oui, je le sais, mais tu sais, faut que ça fitte quand même là.
Oui, oui, mais tu sais, il a pas l'air demandant nécessairement en relation. Il fait ses petites affaires.
Non, mais c'est un cheap aussi, là. Il donne rien à ses enfants à sa mort. Il envoie tout ça à la fondation de Bill Gates. Il donne absolument rien à ses
enfants. C'est quelqu'un de très particulier, puis on pourrait décliner sur tous les autres fortunés qui sont des gens très particuliers.
Puis dans un de ses livres, ils ont demandé à sa première femme, mais pourquoi vous vous êtes chargé de lui trouver une autre femme? Il a dit, c'est simple, il pensera pas à manger, puis il va mourir. Ça en dit long sur le personnage.
Pareil, c'est fascinant. Puis,
il l'a jamais actionné pour ces propos-là, donc c'est vrai.
Oui, mais c'est des gens qui sont dans leur tête. Puis il y a-tu une forme d'autisme au travers de ça qui fait en sorte qu'ils ont une fixation sur les chiffres et tout ça?
Je croirais.
Mais ils sont hyper concentrés, mais pour le reste, pense pas à manger. Parce que c'est quand même la base de la vie, manger.
Ouais, à un moment donné, c'est comme un enfant, il se laissera pas mourir.
Exact.
Là. Hey, moi, je pense que c'est une façon de voir, mais...
Il s'est pris 100 000 $ l'année passée. Il se prend un revenu de 100 000 $.
Puis il vaut...
Tout le reste est investi, réinvesti, puis toute la patente.
Il est encore dans sa vieille maison.
Vieille maison de 1958.
Encore avec son vieux char.
Sauf erreur, il avait encore son Cadillac. Il avait changé son, il avait changé son 2014 pour un 2018. Oh wow, la gâterie! Mais non, mais j'adore ça. J'adore ça, quelqu'un comme ça. Ce sont mes riches préférés. Moi, personnellement, je connais quelqu'un qui vaut quelques millions. Et jamais, tu vas croire que jamais... Vraiment jamais.
Oui, mais ça légitimise le fait que t'es cheap, Pat.
Mais...
c'est pour ça que t'es aimes.
C'est pas moi. Mais en le disant, j'ai pensé que vous auriez pensé. Ouais. Mais tu sais, Warren Buffett, juste pour faire, puisqu'on en parle, pour faire du pouce, il a quand même toujours donné les mêmes conseils parce qu'il y avait une formule qui était simple et gagnante qu'on peut appliquer pour nous aussi personnellement. Là. Le but, c'est pas de devenir comme Warren Buffett nécessairement, mais de prendre les bonnes habitudes, c'est d'investir dans ce qu'on comprend. T'sais, il dit « Investis dans ce que tu comprends, investis dans ce que tu connais en partant. » Fait que lui, il était longtemps, je ne sais pas si tu connais un peu, avec Apple, c'était long avant qu'il aille vers les technologies parce qu'il ne comprenait pas c'était quoi. Puis à un moment donné, il a saisi. Puis tu sais, on dit à Apple, mais on n'est pas là pour recommander des titres boursiers ici en onde. C'est juste sa composition de portefeuille. T'sais, après ça, il est allé dans le Dairy Queen, il connaissait ça. Après ça, c'est allé dans du fast-food, dans du Coca-Cola, des compagnies d'assurance, du crédit. Il a composé un portefeuille avec des compagnies de tous les jours. De fait, des compagnies que lui utilisait à tous les jours. Puis il a commencé à bâtir ça depuis des années. Sa crédibilité, quand même, depuis le nombre d'années, c'est quand même fascinant. Là, la moyenne, je pense, depuis la dernière année, on était à au-delà de 25 % de rendement dans la dernière année.
Toi, tu parles pour Berkshire Hathaway.
Berkshire Hathaway, bon. Le titre de catégorie B.
Exact. Mais
pour préciser,
à titre de comparatif, là, le S&P 500 puis le Dow Jones, c'est tout le temps entre 7 et 11 % que ça peut te rapporter.
Effectivement.
Berkshire Hathaway, on frôlait des fois le 30 %.
Oui. Oui,
c'est pour ça qu'on l'appelle l'oracle.
Et ça a déjà perdu aussi 30-40 %, mais ça voulait dire que les autres aussi avaient perdu énormément. Mais il y a quand même toujours, stoïque, hein, tu sais, il y a pas vraiment d'émotion. Lui, c'est quelqu'un, écoute, quand tu vaux des centaines de milliards puis tu te prends 100 000 par année, il n'y en a pas de stress. Et il y a peut-être une leçon à comprendre de ça, c'est que des fois, les gens investissent de l'argent qu'ils n'ont pas ou qui sont allés trop loin dans l'investissement. Alors, est-ce que c'est mieux? Non, parce que ça crée un stress, justement, quand on a vu les marchés baisser un petit peu en début d'année. On reprend, là, présentement, mais ça a stressé beaucoup de monde. Pourquoi ça stresse? C'est parce que pour bien des gens, ça représente une grande partie de leur vie puis de leur fortune. Mais, tu sais, si quelqu'un a 30 % de sa fortune investie en bourse, un autre pourcentage dans l'immobilier, un autre pour... Bien, la bourse descend, oui, mais c'est une partie de sa fortune. Mais la part des gens, souvent, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une bonne... Il y avait une bonne année, le beau-frère a parlé l'année passée, il disait, hey, j'ai fait 24 % avec le S&P. On est arrivé, puis on a pris de l'argent, des fois, dans la marge de crédit, puis on a sacré ça dans le S&P, puis là, soudainement, le S&P avait perdu. Fait que là, ils ont capoté un peu, parce que pendant qu'ils payaient des intérêts, puis il fallait qu'ils fassent des remboursements sans marge. Il y avait aussi de l'autre côté des placements qui descendaient. Alors ça crée des stress, tu sais.
Puis la force de Warren Buffett, c'est qu'il a toujours conservé de l'argent pour acheter en période de crash.
Tout le temps.
Quand il y avait du crash, là, il y avait des économies à faire. Là, ouais. Il arrivait puis il achetait tout ce qu'il pouvait acheter qui était dans son secteur d'activité à lui.
Puis, oui, tu te fais bien de le préciser parce que c'est vraiment dans... On revient au même principe, là, principe numéro un. C'est vraiment dans ce qu'il connaît. Puis même s'il y avait d'autres occasions, parce qu'il y a des gens qui avaient parlé, tu sais, d'aller vers de la crypto-monnaie, ouais. D'aller vers d'autres sphères, d'aller... Oui, mais je connais pas ça. Je comprends pas. Fait qu'on l'a dit tantôt, là, lui, là, il est vraiment, il a une vision tunnel. Puis oui, ça se peut qu'il soit, je sais pas si on l'a diagnostiqué TSA comme Elon Musk. Mais ce sont des gens qui ont des visions tellement fortes. Ils sont concentrés sur... C'est pour ça qu'ils ont autant de succès, parce qu'ils sont vraiment, comme on dit...
C'est une obsession.
Focusés ou focalisés, il faut dire. Oui. Mais, tu sais, puis la pensée à long terme, chercher la valeur et non pas dans la popularité. C'est quelqu'un d'introverti aussi. Donc, tout ce qu'il fait, c'est bon coup. Il n'a pas à les montrer, puis tout ça. Toujours rationnel. Puis évidemment, quand les autres paniquent, il mentionnait que quand la marée descendait, c'est là qu'on voyait ceux qui se baignaient, pas de costume de bain. Où il disait quand les temps font paniquer les gens, ben c'est à ce moment-là où on se positionne. Mais je dois dire que présentement, il était très cash, comme on dit, très liquide, prêt à redéployer. Celui qui a repris, comment il s'appelle, donc, Greg Abel, l'Albertain, le Canadien.
Un peu.
Mais Greg Abel, ben, ça fait quand même un bon bout de temps. Lui, c'est un petit jeune, il a 60 quelques années. Là. C'est vraiment un flow là, comparé de Warren. Mais il l'a accompagné depuis quand même, ça fait plusieurs années. C'était un peu c'était son bras droit, pas un peu, c'était son bras droit. Celui-ci était, jusqu'à dernièrement, le VP. Alors là, je présume qu'officiellement, il va être nommé président. Et Charlie Munger, ou Munger, ça dépend de quelle région on vient, mais Charlie Munger, lui, est décédé il y a à peu près 2 ans, grosso. Fait que c'était aussi le bras droit avec Warren Buffett. Fait que là, c'est sûr que Berkshire Hathaway, qui est le titre, on a catégorie A, catégorie B. Catégorie A, on n'est pas loin du 800 000 US.
L'action.
Et en catégorie B, j'ai pas regardé, je sais pas si tu l'as apporté. On était autour de 500 de US, 500 $ là, pour le B.
Mais le A, là, quand tu achètes ça, c'est un peu comme la femme d'affaires ou le premier homme d'affaires qui achète sa montre de qualité.
Ouais.
Un genre Rolex. Là.
C'est un symbole. Ouais. Puis quand tu réussis à acheter ça, cette action-là, tu la gardes toute ta vie pour léguer ça par la suite. Là.
Absolument. C'est comme si on est arrivé. On a acheté une action de Berkshire Hathaway de catégorie A. Qui
ça prend-tu une permission spéciale pour acheter cette action-là?
Une invitation, une liste, un peu comme les réseaux de rencontres privées, là, VIP.
Ah,
là.
Nous autres, on n'a jamais été invités. On a été dernier à piger dans le sac à face. On n'a jamais été invités dans le VIP.
À ta question, je ne pourrais pas te répondre précisément, mais je n'ai pas l'impression que sur l'application, tu peux aller chercher 800 000 dans ton compte chèque puis le soigner dans j'ai l'impression qu'il y a une démarche qui se fait avec un conseiller en valeur mobilière.
C'est vraiment
là.
Pertinent à la question de Yannick parce que je me dis, bon, 800 000, c'est énormément d'argent. Okay, on s'entend, le commun des mortels, c'est énormément.
800 000
mais il y en a quand même beaucoup qui sont capables d'accéder à 800 000 pour une action dans le monde quand tu regardes la richesse de tous.
Ouais.
Fait que ça doit être un peu contrôlé, je peux pas croire.
Ben, je présume que oui. Pour passer à travers des trusts, comme on dit, ou des firmes de valeur, évidemment, de valeur mobilière, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde. À savoir si, dans le fond, la grande question, c'est est-ce qu'il faut être un investisseur qualifié, comme dans bien d'autres produits financiers, ou faut-il être un investisseur qualifié, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies au moins 1 million d'actifs liquides, il faut que tu aies des revenus dépassant quelques centaines de mille avec une valeur patrimoniale. On appelle ça un investisseur qualifié qui peut aller dans des produits qui sont soit dispensés ou dans différentes sphères. Le cas ici, ça reste que c'est une action sur le marché, comme les autres. Mais ce serait peut-être... je peux te faire une petite recherche.
C'est très limité aussi, les entreprises dans lesquelles ils décident d'acheter des actions.
Mais oui.
Je pensais que... bon, avec Berkshire Hathaway, je pensais qu'il pitchait un peu partout. Non, c'est très, très limité. Puis il n'investit jamais dans une entreprise qui perd de l'argent. Jamais. Ça arrive jamais.
Mais tu sais pourquoi qu'il ne perd pas d'argent? D'ailleurs, c'est ça, comme on dit, la règle numéro un, ne jamais perdre d'argent. Puis la règle numéro deux, de se rappeler de la règle numéro un. Puis, mais pour ne, comment ne pas perdre de l'argent? Ben, c'est que lui, il achète puis il ne vend pas.
Il garde aussi ça, l'argent pour acheter dans les entreprises qui n'en perdent pas d'argent.
Il garde ça longtemps. Puis là, à un moment donné, il en rejette, il en rejette, il en rejette. Puis il arrive à un stade où on a ce qu'on appelle des dividendes. Alors, il y a des titres, ce qu'on appelle aussi des titres de valeur, qui vont te donner du dividende. Quand Yannick parlait tantôt du S&P 500, on parle d'autour de 8, 9, 10, 11 %. Vous allez entendre des fois différents chiffres sur une moyenne, exemple, des 30, 40, 50 dernières années. Bien, il y a le dividende qui fait partie de ce rendement-là. Et on peut décortiquer le S&P 500, si on vulgarise ici, là, pour les besoins de la cause, c'est qu'il n'y a pas un gros pourcentage de compagnies dans le S&P 500 qui a fait vraiment beaucoup de rendement dans les dernières années. C'est une poignée parmi les 500, on dit les 500, mais il y en a beaucoup là-dedans de ces 500-là qui tirent le diable par la queue.
Ouais, ils sont
kickés out, c'est comme ça. On dit. Fait que ceux qui mènent, ben c'est là que lui, il est dans les valeurs. Mais là, on pense, ben, c'est évident qu'il fait des analyses fondamentales. À partir de là, il va regarder les bénéfices, il va regarder la ligne d'en bas de chacune des entreprises dans lesquelles il investit. Puis quand il investit, je pense pas qu'il commence avec un 1 000 puis on va voir ce que ça va donner. Bien certainement que là, on y va avec plusieurs milliards ou peut-être plusieurs millions en commençant pour s'installer dans un nouveau titre. Monsieur Ferrand, il me semble qu'il n'a pas acquéri de nouveaux titres. Il respecte vraiment sa politique de placement, mais sa grande force, c'est qu'il n'a pas d'émotion. Mm. Ou peut-être en amour, il y en a un petit peu, ou pas. En tout cas, sont mal canalisés. Mais personnellement, c'est peut-être plus difficile. Mais avec l'argent, il n'a pas d'émotion. Puis ça reste que c'est une des grandes qualités quand tu es capable de contrôler avec de l'argent dans les mains autant. Tu es capable d'arriver à vivre modestement. Et je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Puis moi, je me compare pas à Warren Buffett. Mais personnellement, des fois, je me dis, Caroline, que je pourrais, si je voulais, là, je fais des si puis des rêves, c'est voulu, là, c'est juste pour faire la joke un peu. Puis en même temps, ben oui, mais tu dis non, il me reste 30, 40 ans à vivre, il peut avoir des imprévus, je peux tomber complètement invalide, il peut arriver de quoi pour les enfants, Fait que.
Mais c'est beaucoup quoi, de l'anxiété, par
c'est
exemple,
beaucoup,
Pat. Là.
Oui, il y a de l'anxiété.
Il y a de l'anxiété, mais tu sais, moi, j'essaie de faire le juste milieu de tout ça. Tu sais, profiter de la vie aujourd'hui parce qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait. Fait que tu sais, je le sépare en certains pourcentages. C'est 33, 33, 33. Fait que tu sais, le 33, c'est pour plus tard. Puis il y a un 33 où je m'amuse avec, puis il y a un 33 qui sert de paiement.
C'est très bien.
Pour mes enfants. Mais c'est correct. Mais tu sais, si j'y vais avec le principe de Warren Buffett, c'est-à-dire de jamais dépenser une scène puis de surveiller chaque dollar qui sort. Tu sais, il est chanceux d'avoir vécu jusqu'à 94 ans. Il est encore en vie, il vaut 129 ouais. milliards, 129 ouais. milliards. Là. Mais tu sais, moi, je peux crever à 60 ans.
Puis clairement, son cerveau n'avait pas besoin de le même genre d'activité, d'aventure, non, de ouais. dépenses que d'autres cerveaux. Tu sais, quand on spécule peut-être d'une condition pour cet homme-là.
On est ouais. tout nu, puis on meurt tout nu, là. Tu peux pas amener ça en haut. Là. Fait que dépenser ça un peu, puis en laisser à tes enfants.
Peut-être que là, on était à l'extrême avec ouais. Buffett, mais tu sais que quand Buffett avait ton âge, parce qu'il a commencé à faire son argent plus tôt dans la cinquantaine avancée, quand il avait ton âge, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est devenu riche rapidement. Tu sais, ça a commencé très tard. Donc là, ça fait peut-être comme 40 ans qu'il est riche, mais il y a 94, donc tu sais. C'est qu'il a commencé dans la cinquantaine.
Fait que j'ai encore l'espoir.
Fait que tu pourrais atteindre ton premier... Mais c'est très bien, tu parles de 33 %. Je ne sais pas si tu parlais de 33 % que tu investissais par année. C'est quand même beaucoup.
Mais je vis avec 33 %, je m'amuse avec 33 % puis je place 33 %. Okay. Ça a tout le temps été comme ça.
Mais si tu faisais 33 000 par année, on va regarder avec les 33, on va regarder les 33, mais le monde. Mais si tu gagnais 33 000 par année,
ouais.
Ben, tu pourrais pas faire ça. Probablement. T'sais, c'est parce qu'il y a des gens souvent qui arrivent, il y a un stade, on dit toujours, est-ce que le bonheur augmente avec l'argent? Oui, jusqu'au seuil où tu es capable de subdiviser tes affaires puis te sécuriser.
Ouais.
Fait qu'après ça, tu arrives à un point où n'avoir plus, est-ce que ça donne plus de bonheur? Non. Ce qui donne plus de bonheur, c'est que tu as des relations peut-être qui sont un petit peu plus facilitantes parce que tu as des sous, tu es capable de suivre des amis, tu es capable de faire des activités à gauche puis à droite, ou voir, des fois on voit des gens qui sont assez fortunés, vont emmener aussi des amis sur leur yacht, vont emmener des amis. Ça, c'est intéressant, ça crée une cohésion. Puis
quand
c'est
j'étais jeune,
des relations qui rendent les gens heureux aussi. Là.
Quand j'étais jeune, les comptables et les économistes disaient, pour vous loger, c'est 25 % de ce que vous faites par année. Là, on est maintenant rendu à 30 %.
À 30, mais...
Et je pense que dans les prochaines années, on va être rendu à 35 %. Fait qu'effectivement, les pourcentages peuvent changer avec le temps.
Mais le 25 %, moi, je le respecterais. Puis j'avais des chiffres ici, peut-être en terminant. Je ne sais pas si on a encore un 42 secondes. Mais tu sais, pour finir avec 1 million à 65 ans, pour compléter les pensions d'État, tu sais, juste pour... on aime ça faire réagir un peu parce que les amis, sur le texto, des fois, je sais que je veux pas que les gens se sentent coupables, mais il y a quand même une réalité. Pour les plus jeunes qui nous entendent, financer une retraite, c'est 610 par mois à 25 ans. À 40 ans, c'est 1925 par mois qu'il faut mettre de côté. Puis à 60, c'est 20 900 par mois pour mettre de côté. Ou 50 à 4 800. Vous avez 45, puis vous voulez avoir votre retraite, c'est 2 965 par mois. À projeter à du 7 %. Vous allez voir un planificateur financier, il va vous le faire à 5 %. Le 5 % est vraiment le pourcentage dédié là, pour projeter une retraite là, avec un équilibre dans tout ça. Fait que quand on y pense, c'est quand même assez coûteux. Fait que c'est quand où on peut se gâter, c'est au moment où on arrive à un stade où nos actifs nous rapportent quand même beaucoup plus que qu'est-ce qu'on gagne en étant au travail. Et souvent, à la vente d'une entreprise ou à la vente d'un immobilier, là, on peut se gâter. Mais rarement avec le flux monétaire, une paye, tu sais, qui est mangée par l'impôt en premier, puis qu'on te donne le reste. Quelqu'un qui est en affaires va avoir sa paye brute, va déduire ses dépenses et va t'imposer après.
Exact.
Et ça, ça fait la grosse différence aussi, l'avantage d'être en affaires. Par contre, en affaires, bien, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Avec un job, tu as peut-être un fonds de pension, tu as une protection, tu as des avantages sociaux. Tu sais, c'est jamais parfait. Mais c'est d'y aller vraiment avec ce qu'on veut. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les objectifs des gens ne sont pas définis. Et si l'objectif devient seulement de vivre à chaque jour le mieux possible à chaque jour, mais on s'en va à nulle part avec ça parce qu'on ne fait pas de budget puis on ne sait pas où est-ce que l'argent va. Puis, tu sais, je vous ai trouvé 1 million, juste en terminant, je vous ai trouvé 1 million, si vous ne saviez pas.
Ah, j'aime ça quand tu fais ça.
Je vous ai trouvé 1 149 841 pour
être précis. Watch bien le calcul, Pascal.
Fait que, un paiement de taux à 600 par mois, qu'on va garder souvent toute une vie, qui va évoluer avec l'inflation à 3 %. Hein? Puis quand le char est payé, souvent ce qu'on fait, ben, on en achète un autre parce que ça nous prend un paiement de taux. Notre cerveau, il aime ça, être occupé avec ça. Fait que sur une vie de 45 ans, alors on part à 20 jusqu'à 65, on a 1 149 000 là. Je vous ai trouvé aussi 874 000.
Attends un peu, là. C'est... Si j'ai pas de char, OK, j'habite au centre-ville de Québec, puis je me débarrasse de ma voiture parce que je suis un fonctionnaire, puis je travaille en ville, je peux y aller à pied ou encore une fois de temps en temps en Uber.
Ouais.
Tu me dis que je peux mettre 600 $ de côté, puis à un moment donné, en bout de ligne, ça va faire 1 million avec les intérêts composés.
À 5 %. Je l'ai mis à 5 % pendant 45 ans. On parle d'une vie active de 20 à 65. Là. Bien sûr que si vous prenez une auto qui est peut-être plus raisonnable, ben on va aller peut-être récupérer une coupe de 100 000 $ là. Quelqu'un qui fume, on est à près de 800 000. Si on prenait l'argent et on l'investit à 5 % au lieu de le dépenser à un paquet par jour.
Hey. Moi, j'ai
c'est
longtemps...
800 000 sur une vie de 45 ans de vie active.
J'ai longtemps pensé à demander mon dû au propriétaire du Palladium puis au propriétaire du Palace. Ouais, je pense que c'est tout là qui est passé.
Le recours. Oui, c'est ça, faire un recours. Pour, ben, tu sais, même le café pour apporter à 4 $ par jour. Peut-être que c'est pas nécessairement autant, mais on a 233 000 là. L'alcool, c'est peut-être moins nécessaire, l'alcool, mais c'est toujours ça la fois pareil. À 25 $ par semaine, je suis allé vous chercher 207 000. Les prénardiens, mes retraites. Mais là, t'es peu.
Et
hey,
puis 27 $ Uber, c'est peu, là.
Hey, Uber Eat. Eat ou Eat. Y a-t-il un S? Il n'y a pas de Eat. 25 par semaine, ce qui est très raisonnable. J'ai un 200 000 là aussi sur une vie active. Je peux
tout
continuer.
Le long d'une
des abonnements. Oui, bien, on parle vraiment de 20 à 65. C'est pendant 45 ans. Là, fait qu'ajuster. Là, vous avez 38 ans, peut-être un peu la moitié. Mais des abonnements inutilisés qui traînent, on n'est pas loin de 90 000 projeté avec un rendement de 5 % si on l'investissait au lieu de l'avoir qui traîne, puis on ne le sait même plus. Puis là, je peux continuer avec la loterie. c'est au-delà de 40 quelques mille pour la moyenne des gens, la loterie, jeux de hasard, des frais bancaires évitables. C'est une quinzaine de mille sur une vie qu'on laisse dans des... Hey. Fait que les gens sont, comme l'annonce, hein, sont plus riches que... vous êtes plus riches que vous le pensez. Alors, il y a beaucoup d'argent à aller chercher là. Bien certainement, le premier coût sur une paye, ben c'est l'impôt. Alors là, on peut le travailler avec un REER.
Ouais.
Ça, si vous êtes en affaires, ben là, avec les dépenses, puis j'aime pas ça dire jouer avec ça, mais on peut optimiser avec du conseil professionnel, mm-hmm, d'aller chercher le maquillage, d'aller éviter. Je dis bien l'évitement fiscal dans le bon sens du mot. Ils n'ont pas abusé pour faire tout ce qu'il y a à faire pour l'optimiser. Mais après ça, les fameuses dépenses inutiles, je pense que là-dedans, on n'est pas obligé de tout couper. Là, pas avoir de char, puis pas boire d'alcool, puis pas avoir... Mais on peut couper un petit peu dans chacun, je pense, et d'équilibrer un budget. Mais si on n'a pas de budget, on ne peut pas le voir.
Juste l'argent.
D'aller chercher une coupe de 100
000. Juste l'argent
là,
qui dort chez vous. Moi, j'ai eu un beau-père qui était un peu comme toi, là, qui voyait un peu où sortait l'argent. Il était tout le temps en train de négocier, que ce soit par les assurances ou si, ça. Il s'arrangeait tout le temps pour avoir le meilleur retour possible, au meilleur prix possible. Si on buvait, on allait chez eux et on allait une petite canette de bière, ben lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait les canettes d'aluminium. Il les mettait tout le temps à la même place. Hey, à la fin de l'année, là, il se ramassait un méchotot de pognon.
Mais
là,
honnêtement, les canettes, là, avec l'augmentation des prix, là...
Oui.
Hey, moi, j'ai fait un sapristito, j'ai fait un party de fin de saison là, ouais, à la maison. Je me suis fait 54 $. Dans le temps, pour aller en Tunisie, j'avais ramassé des canettes. Là,
mais quelle vie de débauche que tu as.
Non, party, c'est hein? Que ça monte.
54 pièces.
Il y a des bons buveurs là-dedans. Là. mais quand même, avec celle que j'avais déjà, puis tout ça, puis le Perrier, puis ouais, ça va vite. Ah ouais, avec le temps des fêtes, moi, depuis le temps des fêtes, j'avais ça, fait que j'avais eu une couple de soirées à la maison. 54 $, puis je me souviens très bien, jeune, ramasser des canettes, puis en mettre partout dans le cabanon à maison, des sacs, puis gosser le monde avec ça, pour en sortir avec 24 $, après 6 mois, mettons. L'augmentation de la valeur de la canette est énorme, là.
Moi, je donne aux enfants cet argent-là.
Je comprends.
Ils vont porter les... Parce que, sérieusement, je suis peut-être cheap un peu, mais moi, d'être devant la machine, là, puis je cling, non. Fait que, mais les enfants adorent ça. Puis on fait des sacs.
Des fois,
puis,
ça peut être gênant.
C'est
vrai.
Oui, mais c'est ça, oui. Tout le monde te passe dans le dos, puis à un moment donné, il y en a qui attendent, puis il y en a qui s'en vont au petit lavabo, se décoller les doigts. Mais là, ça a changé, là. Il la détecte, là, tu sais, puis elle tourne. Puis après, ouais, ça, il te la re-shoot, là, si,
ça
si
fait
c'est pas.
Pas
la bonne.
Ouais, mais c'est ça. Mon beau-père, il voyait tout où l'endroit, où l'argent fuyait,
oui,
les
du
endroits.
Coulage.
Puis des fois, il disait, oh, regarde, tu vois, j'ai une réserve de bois, là, j'en ai plus de besoin, je pourrais repasser ça à mon chum, c'est de l'argent qui dort, là.
Ouais.
Là. Il laissait jamais de l'argent dormir dans son cabanon. S'il avait plus besoin de quelque chose, il le revendait. Puis Marketplace, il a facilité la vie. Là.
C'est sûr.
Parce qu'il vendait toutes ses affaires sur Marketplace. Des fois, c'était des affaires à 10, à 20, des fois à 50, des fois à 100. Mais moi, je veux dire, j'ai jamais été capable d'être comme ça. Moi, j'accumule quelque chose dans le cabanon. Là. Ça peut rester là 5 à 10 ans sans problème. Là.
T'es pas capable
après,
de vendre.
Plus de valeur.
Ça, hein?
T'as de la misère à te débarrasser ou à vendre.
Ouais,
donner,
parce que je
ou
me dis, peut-être qu'à un moment donné, je vais le réutiliser. Mais ce que lui avait comme... juste pour son linge, OK? Puis c'est lui qui m'avait dit cette loi-là de son linge.
Ouais.
Il dit, si je le mets pas pendant un an, j'en ai pas de besoin.
Exact.
Puis j'ai instauré ça chez nous. Si je mets pas une pièce de vêtement pendant un an, j'en ai pas de besoin.
Ouais, moi, je fais ça. J'ai un sac. Moi, j'ai un gros sac de poubelle dans le garde-robe. Puis à un moment donné, cette chemise-là, je ne la mets plus. Je mets ça là-dedans. Puis quand le sac est bien plein, je pars. Puis là, il y a des bacs un peu partout ou Village des Valeurs. Mais tu sais, je parle du Village des Valeurs chaque fois que je viens ici de m'arrêter.
Mais oui.
Mais ils vont me payer, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment pour faire, comme on dit, on va épurer le garde-robe.
Ouais.
Mais ça fait du bien mentalement de se débarrasser, tu sais, d'épurer la maison parce qu'on dit tout le temps, on manque de place. Non, c'est parce que tu es en envers et tu as trop de stock. À un moment donné, c'est quand on déménage qu'on s'en rend compte. Hein? Tu déménages, puis là, tu te dis, voyons donc, j'ai donc bien des ustensiles, j'ai donc bien... Puis là, tu ramasses du linge que, justement, tu as une grosse poignée, là, tu sais, tes bras, là, j'ai ceux qui me voient pas, là, j'ai les bras tout ouverts comme si je faisais un gros câlin à quelqu'un, là. Puis là, tu traînes ça, là, avec les supports, puis là, tu essaies de mettre ça dans le coffre, tes poignées, puis ça prend
je sais
la place.
Pas si t'es les amis comme ça, là, mais j'ai déjà sorti avec une fille dans le temps, là, elle achetait des vêtements... Puis 2-3 ans plus tard, elle déménageait, puis elle s'apercevait qu'il y avait des vêtements qu'elle n'avait jamais enlevés parce que les étiquettes étaient encore sur la pièce de vêtements.
La pièce de vêtements.
Oui, on salue ma conjointe.
Bon, clairement, il y a
des étiquettes. C'était en spécial. Par exemple, au moins, il y avait des étiquettes rouges.
Mais moi, le problème, c'est que il y a eu des moments dans ma vie où j'avais des fluctuations de poids. Fait que là, mettons, t'achetais le vêtement, puis ça, c'est à ne pas faire.
Ah oui.
En disant, je m'en viens là ou quoi que ce soit, fait que ça va être correct, dans 2 mois, ça va me faire. puis là, l'étiquette reste dessus, tu le mets jamais, là.
Ben oui.
Ça a pire à faire.
C'était pour te motiver.
Ben, c'est motivé
ça.
Ou...
Ça y apportait une certaine motivation.
Ouais. C'était un engagement.
Parce qu'il était pas cher.
Ouais. Patrimon du podcast Financièrement parlant. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On se reparle la semaine prochaine. Je te souhaite de passer une belle fin de journée.
Merci, vous aussi.
Pour t'écouter, on s'en va directement sur la page Facebook podcast Financièrement parlant.
Ouais, ben sur les plateformes de balado, podcast, là, Financièrement parlant, podcast. On est toujours là.
Les
on a fait
cheap
beaucoup,
sont
on
là.
On a fait beaucoup. 500 quelques podcasts wow. pour vous. Là. Vous avez passé des heures. Vous allez être écœuré de m'écouter.
Puis tu fais ça gratis?
Moi, je fais tout gratis.
Hey, c'est de l'argent qui coule, ça. Là.
L'argent qui coule.
Hey, ouais, tu laisses couler de l'argent.
13h33, on vient. Marceau, le midi.